Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous commençons maintenant le chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean, que nous commentons à partir des Pères de l'Église, donc ce sera plus facile que le premier chapitre, qui reste un des chapitres les plus difficiles à expliquer, surtout en ces premiers versets des quatre évangiles. Donc sur le polycopier, qui contient les commentaires des pères des chapitres 1 à 5 de Saint Jean, c'est à la page 22 ou à la page 23. J'ai dû reprendre un petit peu la pagination, je vous prie de m'en excuser. Pour ceux qui ont le premier fichier, je fais des corrections au fur et à mesure, et comme j'ai dû changer d'ordinateur, je vous l'ai déjà expliqué, je suis passé à Linux, et donc il ne reconnaît pas toutes les polices que j'utilisais avec Windows, donc c'est un peu compliqué. Alors, commençons par les versets 1, 2, 3 et 4 de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2. C'est l'histoire des noces de Cana. Trois jours après, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Non, pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc remarquons d'abord que Saint Jean va complètement passer sur l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque ce sujet a déjà été traité par les synoptiques, c'est-à-dire les évangélistes, Saint Marc, Saint Luc et Saint Matthieu. Et donc Saint Jean, qui complète les synoptiques, va parler d'autres sujets, et ici il va aborder la sacramentalisation du mariage. Donc le mariage va être élevé d'un niveau naturel à un niveau sacramentel. Le point important est l'intervention de la Très Sainte Vierge Marie pour obtenir le premier miracle de notre Seigneur. Il va être expliqué que ce fut le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit premier, dit qu'il n'y a pas eu d'autre miracle avant le miracle de Cana, changement de l'eau en vin. Donc toutes les apparitions qui prétendent, apparitions non reconnues par l'Église, qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans son enfance des miracles, en changeant par exemple donnant la vie à des petites figurines d'argile qu'il aurait fait, comme le disent certains textes non reconnus par l'Église, mais tous ces miracles sont des faux miracles, puisque le premier miracle a été celui de Cana, donc il n'y en a pas eu auparavant. Le point clé, à mon avis, est l'intervention de la Sainte Vierge. On voit très bien ici que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas l'intention de faire son premier miracle à ce moment, début de son apostolat. Il voulait encore attendre. C'est pour ça qu'il va répondre de façon presque un peu sèche à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas encore le temps pour moi de faire des miracles. » Très Sainte Vierge Marie, elle voulait le miracle. Et quand la Très Sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté du bon Dieu, eh bien, elle a obtenu le miracle. Ceci nous aide à comprendre l'influence extraordinaire qu'a le cœur immaculé de Marie sur le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. On il faut vraiment méditer là-dessus, parce que si nous avons Notre-Dame dans notre poche, eh bien, on peut obtenir bien des choses que nous ne serions pas capables d'obtenir par nous-mêmes. Et si la très Sainte Vierge Marie soutient notre demande à cause de l'influence de sa mère, bon Dieu va obtempérer, parce qu'il obéit encore à sa mère. Voilà ce que disent les pères. En se rendant à cette invitation aux noces de Cana, notre Seigneur ne considère pas les intérêts de sa dignité, mais le bien qui peut en résulter pour nous. Il n'a pas dédaigné de prendre la forme d'esclave, il ne dédaigne pas davantage de se rendre aux noces de ses serviteurs. Ce passage est également important. Notre Seigneur Jésus-Christ qui se rend à un mariage, qui va donc participer au repas de mariage. Cela choque certaines personnes. J'ai connu des fidèles qui ont été choqués par ça en disant « Qu'est-ce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui participe à un mariage, à des choses purement superficielles finalement, qui participe à un repas, qui va même changer l'eau en vin ?» Eh bien, il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement Dieu, il est également homme. Et donc, il faut se méfier de cet esprit rigoriste chez eux. Je me rappelle aux États-Unis, à El Paso, exactement dans le Texas, des grosses difficultés avec une dame qui venait à la paroisse et qui prétendait qu'il ne fallait pas boire de vin. Que le vin était, de boire du vin, quelle que soit sa quantité, était déjà pécamineux en soi. Elle me poussait à faire des déclarations en chair le dimanche pour dire aux gens qu'il ne fallait plus boire de vin. Et j'ai toujours utilisé cet exemple du chapitre 2 de Saint Jean pour lui dire, mais non, notre Seigneur Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Elle prétendait que notre Seigneur avait changé l'eau en jus de raisin, mais c'est faux, c'est du vin. Notre Seigneur Jésus-Christ non seulement change l'eau en vin, mais il change l'eau en bon vin, très bon vin. Vous voyez, ceci nous aide à éviter cet esprit sectaire, cet esprit janséniste, cet esprit rigoriste. Il y a parfois des fidèles qui sont comme ça, hélas, mais qui voudraient une espèce de dureté dans toute chose. Il ne faut jamais se détendre. C'est pas un péché de se détendre, à condition de ne pas offenser Dieu. Et ici, on le voit très bien, notre Seigneur Jésus-Christ va... avec ses apôtres, il est invité, non, pas tout seul, mais avec sa mère, avec ses apôtres, et il va pour participer à un repas de mariage. Donc il participe à des choses qui sont des choses relativement secondaires, puisque nourrir le corps, c'est quand même secondaire par rapport à la nourriture donnée à l'âme. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous montre justement que le corps va participer à la joie de l'âme. Donc loin de nous cet esprit janséniste, cet esprit rigoriste qui consisterait à dire qu'on n'a jamais le droit de se détendre. Jamais le droit de se détendre. J'ai eu parfois des fidèles comme ça, notamment aux États-Unis, c'est assez rare en France heureusement, des gens qui nous disaient qu'un catholique, un prêtre catholique n'avait jamais le droit de rire, qu'il devait être sérieux tout le temps. C'est absolument faux. Il n'y a aucune loi d'église qui nous impose de ne pas rire. Il faut rire des choses qui sont risibles dans le bon sens du terme. Il serait tout à fait anormal de rire de choses sérieuses, mais en soi, d'avoir une joie de vivre, d'aimer rire, d'aimer les choses joyeuses, quand c'est le temps de faire des choses joyeuses, de participer à des choses joyeuses, il n'y a rien de mauvais avec ça. Donc attention, loin de nous encore une fois cet esprit de jansénisme. C'est pour cela que Saint François de Sales appelait le jansénisme l'hérésie de glace. Des gens qui considèrent qu'il faut toujours être sérieux en toute chose et jamais se détendre, jamais s'occuper de choses secondaires. Rappelez-vous l'exemple qui est très connu dans la vie de Saint Jean. Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait tout particulièrement à cause de sa virginité, c'est le dernier apôtre qui est mort. Il est mort à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, et sur ses vieux jours, il passait une longue partie de sa journée à caresser une colombe apprivoisée qu'il avait. Et ça a choqué certains fidèles. Et comment vous, qui êtes le dernier des apôtres encore vivants, vous perdez du temps à caresser une colombe apprivoisée? Il a répondu, si la corde de l'arc est toujours tendue, il finit par casser. Vous bien montrer qu'il y avait des moments de détente. Donc il n'est pas contre la foi catholique, ce n'est pas contre la foi catholique d'apprendre à se détendre avec des amis, encore une fois, une détente saine. On peut se détendre sans offenser le bon Dieu, bien sûr. Il est évident qu'on n'a jamais le droit de se détendre en offensant Dieu, mais il y a des détentes parfaitement saines qui consistent à à détendre le corps pour que ce corps soit plus facilement mis au service de Dieu. Donc, ces noces de Cana sont un symbole qu'on va retrouver en de nombreuses occasions dans l'Évangile. Notre Seigneur va donner dans plusieurs paraboles l'exemple de mariage. Un riche père de famille, un roi qui fait le mariage de son fils et qui invite des invités à la noce. Eh bien, on retrouve ici, et comme dans les autres exemples où notre Seigneur parle d'un mariage, on trouve toujours la même explication des pères. Le mariage est le symbole de l'union entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Du mariage entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois homme et à la fois Dieu, dans la même personne. Donc, les mariages que l'on rencontre dans l'Évangile, en parabole ou en fait réel, comme ici, représentent le mystère de l'incarnation, tout simplement. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui sans cesser d'être Dieu, unit sa divinité avec notre humanité, qui reçoit du Saint très pur de notre Sainte Vierge Marie. Qu'y a-t-il donc d'étonnant, disent les pères, que le Fils de Dieu se soit rendu à ses noces, lui qui est venu dans le monde pour célébrer des noces toutes divines, les noces de l'union entre son humanité et sa divinité. Il a en effet une épouse qu'il a rachetée de son sang, à laquelle il a donné l'Esprit Saint pour gage, et qui s'est unie dans le sein de la Vierge Marie. Le Verbe est lui-même époux, et la nature humaine est son épouse, et l'un et l'autre forment un seul Fils de Dieu comme un seul Fils de l'homme. Le sein de la Vierge Marie était le lit nuptial, d'où il s'avance comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale. Et donc on voit là l'explication donnée par les pères de cette union entre l'humanité et la divinité, donc le mystère de l'incarnation qui prépare le terrain au mystère de la rédemption. En fait, c'est le même mystère continué. Donc, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment la deuxième personne de la Sainte Trinité, il y a une double nature, il est vraiment homme, vraiment Dieu. Donc il y a un mariage entre les deux, de même que les deux époux, en se mariant, vont devenir une seule chair, pouvoir remplir la fonction première du mariage, à savoir la procréation des enfants, le but du mariage, c'est pour cela que le bon Dieu institue le mariage. Et bien, de la même façon, en notre Seigneur Jésus-Christ, il va y avoir dans la même personne une union entre l'humanité et la divinité. Mais attention, je vous ai déjà souvent expliqué, cette union va se faire sans mélange. Il ne faut pas essayer de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ comme une espèce de mélange d'humain et de divin. Il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et les deux natures ne sont pas mélangées, mais sont unies dans la même personne. C'est un point qui me semble extrêmement, extrêmement important. Et on va retrouver dans bien des cas les mêmes explications données par les pères. Pratiquement tous les pères expliquent ces mariages dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, soit sous forme de parabole, soit sous fait réel comme ici à Cana, comme justement le symbole de ce mystère de l'incarnation. Donc par la grâce sanctifiante, nous participons à ce mystère de l'incarnation et nous allons unir notre nature humaine à la grâce sanctifiante. Et donc ce mariage représente aussi la divinisation de notre âme par la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante va élever l'âme, telle façon que l'homme soit divinisé par ce contact avec la grâce sanctifiante, qui n'est rien d'autre que l'habitation en nous, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité habitant en nous, il va y avoir une divinisation de l'homme. Rappelez-vous cette phrase très belle de Saint Augustin que je vous cite souvent, l'homme, Dieu devint homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Bon, évidemment, il ne faut pas comprendre cette phrase de travers, mais elle est très importante. Le verset premier de ce chapitre 2 précise que ces noces se firent 3 jours après. Donc 3 jours après les premiers contacts de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses apôtres, le choix de ses apôtres. Et ces 3 jours, essayons de voir un petit peu ce que représentent ces 3 jours. Ces noces, dire les pères, ont lieu 3 jours. Donc on est à page 23 sur le polycopier. Ces noces ont lieu 3 jours après l'arrivée de Jésus en Galilée. Mais cette circonstance n'est pas sans mystère. Voilà ce que disent les pères pour expliquer ce chiffre 3. Ça parle des 3 âges de la loi, pardon, de la, avant la loi, sous la loi et sous la grâce. Il y a une espèce de progression vers Dieu. L'Ancien Testament, c'est le premier âge, le premier jour du monde, avec l'exemple, les exemples éclatants donnés par les patriarches. C'est donc le premier âge avant la loi. Avant la loi mosaïque. Et cela va amener la deuxième marche, c'est-à-dire le deuxième âge sous la loi par les oracles des prophètes qui vont expliquer cette loi. Et enfin, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, on monte au troisième étage sous la grâce par les écrits des évangélistes. Donc les patriarches correspondent au premier âge, les prophètes au deuxième âge et les évangélistes au troisième âge. Et c'est dans ce troisième jour que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu naître dans une chair mortelle. Donc il a préparé en quelque sorte le terrain, préparé psychologiquement les Juifs à accepter l'arrivée du Messie par l'enseignement des patriarches, les exemples donnés par les patriarches avant la loi, les oracles des prophètes sous la loi et les écrits des évangélistes avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les noces de Cana en Galilée représentent le zèle de la transmigration. Et cette circonstance apprend à ceux qui veulent se rendre dignes de la grâce de Jésus-Christ qu'ils doivent être enflammés du zèle d'une religion véritable et passer des vices à la pratique des vertus et des choses de la terre à l'amour des biens célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mariage représente un changement d'état de vie. Cela représente le travail de conversion personnelle. On passe d'une vie marquée par le péché, d'une vie marquée par les vices, à la pratique des vertus. On passe de l'amour des choses terrestres à l'amour des choses célestes. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin, deux amours ont fait deux églises en quelque sorte. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de l'homme, mépris de soi-même a fait la cité céleste, et l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste, et l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. Donc, le mot Cana représente ce changement de vie que les pères appellent une transmigration, c'est-à-dire un changement d'état. On passe de l'état de pécheur à l'état de racheté. Nous étions avec une nature blessée par le péché originel. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation, va racheter cette nature blessée. Notre nature reste blessée, attention. Même après le rachat par notre Seigneur Jésus-Christ, même après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et après sa vie sur la terre, ses 3 ans de vie publique et la rédemption par la croix, la nature humaine reste blessée, attention, il ne faut pas oublier. Le baptême efface le péché originel. Il reste blessure, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué très souvent, je ne reviens pas. Il reste la blessure d'ignorance, faiblesse, de malice et de concupiscence. Donc, le miracle de Cana représente donc aussi un changement de vie. C'est-à-dire que le passage de l'eau au vin représente le passage de la vie dans le péché à la vie dans la grâce. Le vin a toujours été un symbole de la grâce. On va voir tout ça avec les pères de l'Église. Pendant que le Seigneur prend part au repas des noces, le vin vient à manquer. Et il le permet, Dieu notre Seigneur le permet, pour faire éclater par la création d'un vin plus exquis la gloire qui est comme cachée dans l'homme Dieu. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors là se passe un passage un peu spécial, difficile à expliquer, cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ à sa mère. La mère, notre Seigneur Jésus-Christ, souhaite obtenir un miracle. Elle a remarqué que les invités, ceux qui organisent la noce, les parents sans doute des deux mariés, n'ont plus de vin. C'est une humiliation terrible. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ semble ne pas avoir remarqué la chose. Et la très sainte Vierge Marie lui dit simplement, ils n'ont plus de vin. C'est tout. Elle n'a pas demandé, s'il vous plaît, faites quelque chose, faites une multiplication de vin, ou faites un miracle pour changer l'eau en vin. Non, ils n'ont plus de vin. Et notre Seigneur Jésus-Christ semble répondre de façon sèche. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors voyons un petit peu comment les pères de l'Église expliquent ce passage. « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ? Parole dont voici le sens, disent les pères. Vous n'avez pas engendré la puissance qui doit en moi opérer ce miracle, c'est-à-dire ma divinité. » Il appelle « femme » pour désigner son sexe et non pour l'assimiler aux femmes ordinaires. Donc ce n'est pas du tout une phrase dure, une phrase un petit peu de mauvaise foi, pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ a un très grand respect pour sa mère. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il faut voir un petit peu l'explication que donnent les pères de l'Église. Notre Sainte Vierge Marie est mère de la personne du Christ. Mais la divinité ne vient pas d'elle. C'est l'humanité qui vient de la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie va donner l'humanité à la personne qui va naître en elle, après le mystère du 25 mars, de l'Annonciation. Donc elle va donner cette humanité qui va s'unir à la divinité qui vient de la Sainte Trinité. Alors attention, faites attention dans ces explications, pas tomber dans le nestorianisme. J'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas. Rapidement, le nestorianisme, c'est cette hérésie qui consiste à séparer, en quelque sorte, l'humanité et la divinité à notre Seigneur Jésus-Christ, de telle façon qu'on obtient une double personnalité. Et donc, un historien disait que la Très Sainte Vierge Marie était mère de la personne humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas mère de la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ, donc on ne pouvait pas dire qu'elle était mère de Dieu. En fait, il n'y a qu'une seule personne, attention, il n'y a pas deux. Donc, la Très Sainte Vierge Marie étant mère d'une personne qui est Dieu, elle est mère de Dieu. Elle est mère du Christ, elle est mère de Dieu, même si la divinité ne vient pas par elle. Elle ne donne à notre Seigneur Jésus-Christ que son humanité. Voyons un petit peu, continuons à creuser un petit peu ce que disent les pères. Comme c'est vous qui avez engendré ce qu'il y a de faible en moi, je vous reconnaîtrai lorsque cette faible nature humaine sera suspendue à la croix. Voilà pourquoi il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, je vous reconnaîtrai lorsque cette humanité dont vous êtes la mère sera attachée à la croix. C'est alors en effet qu'il recommande sa mère à son disciple parce qu'il allait mourir avant elle et qu'il devait ressusciter avant la mort de la Sainte Vierge. Rappelez-vous, cette autre phrase qui va être prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ avec la même expression, femme, cette fois-ci à Saint Jean, femme, voici votre fils, voici votre mère. Notre Sainte Vierge Marie est au pied de la croix et notre Seigneur Jésus-Christ va s'adresser avec une phrase un peu similaire. Ici, il va dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et vous ? Et au moment de la passion, femme, voici votre fils. Fils, voici votre mère. Et la Très Sainte Vierge Marie devient à ce moment-là la mère de l'Église. Donc, le temps n'est pas encore venu pour la Très Sainte Vierge Marie de participer à la co-rédemption. Cela ne va se passer qu'au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, je vous reconnaîtrai lorsque cette humanité dont vous êtes la mère sera attachée à la croix. Donc, notre Seigneur Vierge Marie est co-rédemptrice du genre humain. Elle va commencer ce travail de co-rédemption, cette œuvre de co-rédemption, au moment de la Passion, et pas avant. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ semble un peu sec, un peu dur avec sa mère. Ce qui n'est qu'une une impression. En bas de la page 23, quelques petits détails intéressants donnés par les pères de l'Église. L'Église commémore le miracle de Cana le 6 janvier, bien qu'il, d'après certains pères, ne se soit pas passé ce jour-là. Alors ça, c'est discuté parmi les pères. Parce que je sais, le miracle de Cana, d'après certains pères, a bien eu lieu un 6 janvier. D'après d'autres pères de l'Église, le miracle de Cana aurait lieu un 6 mars. Cependant, l'Église catholique célèbre le 6 janvier trois éléments importants. L'arrivée évidemment des rois mages à la crèche de Bethléem, le baptême du Christ qui a eu lieu un 6 janvier, et également le miracle du changement de l'eau en vin à Cana. Pendant certains pères pensent que ce miracle a eu lieu non pas un 6 janvier, mais un 6 mars. Donc ces trois éléments, ces trois exemples, ces trois passages de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'image qui conduit par l'étoile arrive à la crèche de Bethléem, le baptême du Christ et le miracle du changement de l'eau en vin à Cana, sont ce qu'on appelle trois théophanies, c'est-à-dire trois manifestations. Notre Seigneur Jésus-Christ, par ce miracle de changement d'eau en vin, va manifester sa divinité. C'est pour cela que l'évangéliste va dire, alors ses disciples crurent en lui. Sous-entendu, ils ne croyaient pas encore à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ après, avant, je veux dire, ce miracle. Et c'est lorsqu'ils ont été témoins du changement de l'eau en vin qu'ils ont compris que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Donc le premier miracle qui est commémoré en ce 6 janvier, c'est le miracle des rois mages, conduit par l'étoile, qui eut lieu un 6 janvier. Donc les rois mages viennent et offrent à cet enfant l'homme, offrent à cet enfant l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens au dieu, la myrrhe à l'homme. C'est également un 6 janvier qu'a eu lieu le baptême du Christ, et là c'est la manifestation de la Sainte Trinité. On voit déjà dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ les trois personnes de la Sainte Trinité: notre Seigneur Jésus-Christ qui est baptisé par Saint Jean-Baptiste, mais en même temps on entend une voix qui vient du ciel, le Père qui parle: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et on voit aussi une colombe qui voltige au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, symbole du Saint-Esprit. Je vous lis la magnifique antienne, la magnificate des vêpres, deuxième vêpre de la fête de l'Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, donc au 6 janvier, qui explicite très bien ce que je viens de vous dire à partir des pères. Voilà cette antienne. Nous honorons le saint jour marqué par trois prodiges. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche. Aujourd'hui, l'eau a été changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia. Donc, les trois théophanies sont rassemblées par la liturgie le jour de la fête de l'Épiphanie pour nous rappeler justement que par cette théophanie, notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa divinité. Théophanie, ça veut dire manifestation. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui semblait au début cacher sa divinité, on voit tout à fait la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'humilité de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut deviner que cet enfant nouveau-né qui naît dans le froid de la crèche est vraiment le Fils de Dieu. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va manifester sa divinité publiquement en faisant venir les rois mages. Il est Dieu, il dirige tout. Les rois mages vont venir et vont offrir, vont voir un enfant, mais vont reconnaître dans cet enfant un roi. Donc, ils vont offrir à ce roi l'or qui est symbole de leur royauté. Ils vont reconnaître en cet enfant, dans le froid de la crèche de Bethléem, un Dieu. Donc ils vont donner à l'enfant l'encens, qui est le symbole de la divinité, symbole de la prière, et vont donner aussi la myrrhe, qui est le symbole de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils voient un enfant, ils reconnaissent cet enfant, un roi, un dieu et un homme, qui est extraordinaire, parce que n'oublions pas que ces trois rois mages, Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar, sont des païens à l'époque, ils n'ont pas encore été baptisés. Ils seront baptisés plus tard par l'apôtre saint Thomas. Donc, l'Église a voulu justement, à cause de cela, mettre, si vous voulez, honorer le même jour, le jour de la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier. L'Église a voulu honorer ces trois manifestations, ces trois théophanies: l'arrivée des mages, le baptême du Christ et le changement de l'eau en vin Cana, bien que certains pères, je viens de vous le dire, pense que ce miracle de changement de l'eau en vin à Cana à Galilée n'a pas eu lieu un 6 janvier, mais un 6 mars. Donc il y a une liberté à ce niveau-là dans l'Église catholique. Autre point important, qui était ce marié? Il est invité à des noces. Des noces de qui? Alors là encore, les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des points, je vous l'ai déjà dit, où les pères disent tous la même chose. Par exemple, le mariage de Cana représente le mariage entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le symbole du mystère de l'incarnation. Tous les pères de l'Église sont d'accord. Par contre, les pères de l'Église ne sont pas tous d'accord sur la date du changement de l'eau en vin à Cana. Je vous l'ai dit, certains pères pensent que ça a été fait un 6 mars, certains pères pensent que ça a été fait au contraire un 6 janvier. Eh bien, c'est la même chose. On voit qu'il n'y a pas union chez les pères pour savoir quel était ce marié. Certains pères pensent que ce marié était Saint Jean, qui aurait été marié ce jour-là, mais qui aurait quitté son épouse, appelée par notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui aurait conservé sa virginité. C'est cependant un peu contraire au bon sens. Voilà ce que disent les pères ici en bas de la page 23. Contrairement à ce que disent certains, l'époux du mariage de Cana n'était pas Saint Jean, car celui-ci garda sa virginité toute sa vie, ne fut donc jamais marié. Bon. Cependant, certains pères pensent que bien que Saint Jean fût vraiment marié, cependant, il n'a jamais connu physiquement son épouse, puisqu'il a été appelé par notre Seigneur Jésus-Christ et a quitté son épouse dès le jour de son mariage. Bon, cela n'est pas enseigné par tous les pères. Il était pour cette raison le disciple que Jésus aimait, le Christ vierge, aimait plus que les autres Saint Jean qui étaient aussi vierges. Alors, d'autres pères, les plus nombreux, pensent, et ça c'est très intéressant, que cet époux en question était en fait un cousin de notre Seigneur, un neveu de Notre-Dame. C'était Simon le Cananéen, fils de Cléophas. Cléophas était le frère de Saint Joseph, donc le frère de l'époux de la très sainte Vierge Marie. Entre Baronius et Nicéphore disent cela, et c'est, je crois, enseigné par beaucoup de pères de l'Église. Donc cet époux serait Saint Simon, le Cananéen, qui va devenir un apôtre. Donc dès que Simon eut vu le miracle à son mariage, le changement donc de l'eau en vin, il quitta son épouse, et le monde poursuivre le Christ, choisi par lui pour joindre le groupe des apôtres. Il est à noter qu'au lieu de ce mariage, à Cana, fut orné par une fameuse église construite par Sainte Hélène, qui était la mère de Constantin le Grand. Donc, encore une fois, vous pouvez un peu croire ce que vous voulez dans ce domaine, vous n'êtes pas obligé de croire que cet époux en question était Simon le Cananéen, c'est cependant l'enseignement commun des pères, même si certains pères ont des idées différentes sur ce sujet. L'ensemble, on peut dire que l'immense majorité des pères pensent que c'était vraiment Saint Simon, donc le fils de Cléophas, donc étant le frère de Saint Joseph, ce Simon, Saint Simon, était donc un membre de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il était le neveu de notre Sainte Vierge Marie, cousin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église enseigne que, à ce mariage de Cana, notre Seigneur Jésus-Christ a sacramentalisé le mariage. La raison pour laquelle le Christ vint à ce mariage, c'était pour honorer et sanctifier le mariage chrétien, mais en appelant Simon à lui, il montrait que le célibat et l'apostolat étaient plus grands que l'état de mariage. Donc, c'est des choses un petit peu difficiles à comprendre. On pourrait dire, mais comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ permet que Saint Simon se marie, et puis au moment de son mariage, il vient juste d'être marié, il le prend avec lui. Bon, c'est quand même un peu bizarre. Il y a plusieurs cas dans l'histoire de l'Église. Un autre cas très connu, c'est l'histoire de Saint Alexis, qu'on appelle le Saint de l'Escalier, qui était marié religieusement, et qui a quitté son épouse le jour de son mariage. Donc, en gardant sa virginité, qui après est parti comme pèlerin, un peu dans toute une série de sanctuaires, et qui a fini par revenir vivre chez ses propres parents. Il habitait comme un pauvre sous l'escalier de la maison parce que ses parents ne l'ont pas reconnu. Et il a révélé qui il était uniquement après sa mort par un papier qu'il avait laissé sur lui, une lettre qu'il avait laissé sur lui, sur son corps. Et à ce moment-là, ses parents ont découvert que c'est ce pauvre qu'ils avaient reçu, qui passait toute sa journée dans le froid, dans le vent, à l'extérieur, sous l'escalier de la maison, et bien était en fait leur propre fils. Donc là, on voit très bien que à Cana, notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, a sacramentalisé le sacrement de mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à Cana de Galilée, par sa présence au mariage de Saint Simon, que notre Seigneur Jésus-Christ a transformé une institution naturelle en sacrement. Le sacrement de mariage a donc été institué par notre Seigneur Jésus-Christ à Cana de Galilée, comme notre Seigneur Jésus-Christ a sacramentalisé le baptême par son propre baptême, par les mains des mains de Saint Jean-Baptiste en Palestine. Donc ici, c'est un peu différent, mais c'est vraiment l'institution du sacrement de mariage à Cana de Galilée. Alors, au sens anthropologique maintenant, c'est-à-dire au sens moral, rappelez-vous, le sens anthropologique, ça veut dire qu'un passage de l'Écriture sainte représente ce que nous devons faire, nous. Au sens anthropologique, donc, une âme sainte, une sainte âme par la foi, la chasteté et la charité devient comme une épouse mariée au Christ, quittant tous les amusements du monde, transférant tout son amour au Christ, couvrant et voilant sa tête, c'est-à-dire son esprit et tous ses sens, afin de converser continuellement avec lui au-dessus des nuages, au ciel, dédiant et consacrant toute sa vie au Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, ici, explique que ce mariage mystique représente l'union d'une âme avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas simplement l'union de la divinité avec l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi l'union d'une âme avec la grâce sanctifiante. Donc, lorsque je retrouve la grâce sanctifiante après une bonne confession, ou tout simplement par le baptême, eh bien, je participe à cette cérémonie de mariage. Je suis marié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Saint Isidore, autre détail donné par les pères de l'Église. Saint Isidore fait dériver le mot nuptier, les noces, d'obnubere, couvrir. Parce qu'une femme mariée couvrait sa tête avec un voile. Alors qu'au contraire, dans l'ancien temps, une femme célibataire, était appelée innuba, c'est-à-dire non couverte, parce que sa tête n'était pas couverte d'un voile. Donc, tous ces points sont importants, mais il me semble que le point clé dans ce miracle de Cana est l'intervention de notre Sainte Vierge Marie, ce qui montre que notre Sainte Vierge Marie est vraiment co-rédemptrice, elle est médiatrice de toutes les grâces, puisque c'est elle qui a obtenu la grâce de ce changement d'eau en vin. Alors, voyons un petit peu maintenant les détails de ce changement d'eau en vin, sont les versets 5 à 11 du chapitre 2 de Saint Jean. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 urnes de pierre pour servir aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces urnes, et les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel, et lui en portèrent. Et dès que le maître d'hôtel eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux. Et lui dit, tout homme, sers d'abord le bon vin, puis, après qu'on a beaucoup bu, il en sert du moins bon. Mais vous avez réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Jésus fit là le premier de ses miracles, à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc c'est la conséquence, cette théophanie, cette manifestation, les apôtres trouvent ici la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit tous ces détails qui sont extraordinaires, qui montrent la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait simplement pu faire un miracle et changer l'eau en une piquette qui n'était pas extraordinaire. Ça aurait déjà été un grand miracle. Non, non seulement il change l'eau en vin, mais il change l'eau en bon vin. Il en sert du moins bon, mais vous avez réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc, les pères de l'Église expliquent que cette eau changée en vin représente la foi qui est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ à une âme. Mais cette eau reste sans saveur si la foi n'y découvre pas le Christ. Au moment, disent les pères, où le Seigneur se manifesta dans le mystère de son incarnation, la saveur généreuse du vin de la loi perdait insensiblement de sa force première par suite de l'interprétation toute charnelle des pharisiens. Donc l'interprétation des pharisiens, l'interprétation charnelle, est représentée par l'eau. La foi catholique, conséquence du baptême, est représentée par le vin. Alors ici, les pères de l'Église font quelques commentaires sur le chiffre 6. Il y avait 6 urnes de pierre qui servaient aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Les pères expliquent que ces 6 urnes représentent les 6 époques de l'Église. Nous savons, disent les pères, que les livres de la loi comprennent tout le temps qui s'est écoulé depuis le commencement du monde, et que ce temps se partage en 6 époques, et nous sommes dans la 6e de ces époques. Alors, première époque, Adam jusqu'à Noé. Deuxième époque, Noé à Abraham. Troisième époque, Abraham à David. Quatrième époque, David jusqu'à la captivité de Babylone. Cinquième époque, captivité de Babylone jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Sixième époque, Saint-Jean-Baptiste à la fin du monde. Bon, ces divisions ne sont pas reconnues par tous les pères de l'Église. Certains pères de l'Église divisent d'une façon différente. Par exemple, en faisant intervenir Moïse. Nous allons voir ça dans d'autres passages, entre autres, certains pères de l'Église parlent des 3 âges du monde, l'âge de la nature, l'âge de la loi de Moïse et l'âge de la loi du Christ. Donc les explications peuvent être différentes selon les pères. Donc, selon la plupart des pères, cependant, les 6 urnes, donc c'est le verset 6 du chapitre 2 de Saint Jean, il y avait là 6 urnes de pierre pour servir aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Donc les pères expliquent que ces 6 urnes sont la figure des 6 âges du monde pendant lesquels la prophétie n'a pas fait défaut. Les urnes pleines représentent les prophéties accomplies. Donc, d'autres pères expliquent que l'eau représente l'Ancien Testament, le vin représente le Nouveau Testament. Et que signifie cette circonstance qu'elles contiennent 2 ou 3 mesures? Alors, le chiffre 3, en général, représente le mystère de la Sainte Trinité. Si l'évangéliste n'avait dit que 3 mesures, notre esprit, sans chercher ailleurs, s'arrêterait au mystère de la Trinité. Mais de ce qu'il s'est exprimé autrement, en disant 2 ou 3 mesures, chaque urne contenant 2 ou 3 mesures, ce n'est pas une raison pour abandonner cette interprétation, car là où est le Père et le Fils, là où sont le Père et le Fils, là où le Père et le Fils sont nommés, on doit y joindre le Saint-Esprit, qui est la charité mutuelle du Père et du Fils. Donc le Saint-Esprit, c'est le fruit, si vous voulez, de l'amour permanent qui existe entre le Père et son Fils. Du Père au Fils par une relation de paternité, du Fils au Père par une relation de filiation. Et enfin, si vous voulez, les deux personnes vont spirer, relation de spiration du Saint-Esprit, qui va procéder, relation de procession du Père et du Fils. On trouve là les 4 relations trinitaires, paternité, filiation, inspiration. Et procession. Alors, selon d'autres pères de l'Église, les 2 mesures peuvent représenter les 2 peuples, juifs et grecs, et les 3 mesures, les 3 enfants de Noé, Sem, Cham, Cam et Japhé. Donc les pères expliquent également que les serviteurs qui vont remplir d'eau les urnes, les serviteurs sont les docteurs du Nouveau Testament, chargés d'expliquer aux simples fidèles le sens spirituel des Écritures. Le président du festin, le maître d'hôtel, chapitre 8, il est parlé du maître d'hôtel, Jésus leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel ». Donc ce maître d'hôtel, qui est le président du festin, est tout homme versé dans la science de la foi, comme Nicodème, Gamaliel ou Saul, qui va devenir saint Paul. L'eau changée en vin, que l'on présente au maître du festin, c'est la doctrine de l'évangile qui leur est confiée et qui était comme cachée sous la lettre de la loi. D'autres pères insistent de façon différente sur le fait que cette eau changée en vin représente l'arrivée de la grâce dans une âme. Le vin représente la grâce sanctifiante à cause de la douleur, du caractère gouléant, si vous voulez, du vin, qui représente le travail de la grâce sanctifiante sur une âme. Les pères de l'Église font aussi remarquer que voyant ce festin, trois espèces différentes de convives, parce que l'Église se compose de trois ordres de fidèles. Personnes mariées, des vierges et les docteurs. Donc, une autre note des pères de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ a gardé le bon vin pour la fin parce qu'il a réservé l'évangile pour le sixième âge du monde. Rappelez-vous, six âges du monde, d'après certains pères, le sixième âge du monde, c'est l'âge depuis Saint Jean-Baptiste à la fin du monde. Ça correspond au Nouveau Testament. Le Saint Jean-Baptiste est le prophète qui va faire la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On dit que c'est le dernier prophète du Ancien Testament ou le premier prophète du Nouveau Testament, comme vous voulez. Il a précédé notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il était plus âgé que lui. Il est né juste avant notre Seigneur Jésus-Christ, six mois avant. Et Saint Jean-Baptiste est donc le dernier prophète qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ. J'annonce celui, la voix qui crie dans le désert, disait-il. Et si j'ai rajouté un texte très beau de Saint Bernard, qui est considéré encore comme un docteur de l'Église, comme un père de l'Église, on me dit que c'est le dernier des pères, Saint Bernard, 11e siècle, je crois, les six jaunes de Pierre, il donne les explications suivantes, il dit c'est un docteur mystique, qui passe souvent par le sens mystique, les six jaunes de Pierre sont les six vertus purifiantes de l'âme. Première urne, et la première purification est la componction. À l'instant même où le pécheur gémit, je ne me souviendrai plus de ces iniquités. Componction, c'est l'esprit de pénitence en fait. Hein, cum, on peut dire cum patere, souffrir avec. L'esprit de componction, c'est un peu comme l'esprit de compassion, c'est un peu de ce. De termes synonymes. Compassion, componction, la signification est la même. Compassion, cum patere, souffrir avec. J'accepte de souffrir suivant notre Seigneur Jésus-Christ qui porte sa croix. Et par cette componction, j'obtiens le pardon de mes iniquités, c'est-à-dire le pardon de mes péchés. La deuxième urne, d'après Saint Bernard, représente la confession. Confession, c'est-à-dire la conséquence de la contrition, tout est nettoyé par le sacrement de pénitence. Si je me présente au sacrement de pénitence avec l'accusation, la contrition et la réparation, j'obtiens le pardon de mes péchés, c'est la confession. Troisième urne représente l'aumône. Donnée par l'aumône et tout sera nettoyé en vous. L'aumône étant un moyen de rattraper tous les péchés provoqués par la concupiscence des yeux. Et rappelez-vous, ce qu'enseignent les pères de l'Église sur ce sujet, les choses qui sont un peu sorties de nos esprits aujourd'hui, c'est bien dommage. Les pères de l'Église insistaient beaucoup sur ces trois choses, la prière, le jeûne et l'aumône, expliquant que chacun de ces actes correspondait à une des conséquences du péché originel. La concupiscence des yeux était rattrapée par l'aumône, donc la concupiscence des yeux qui nous fait désirer beaucoup trop les choses matérielles qui nous entourent, on veut tout posséder, ça va être rattrapé par la pratique de la vertu de l'aumône. Par l'aumône, je donne de mon bien pour soulager les pauvres. Et donc, j'attaque la concupiscence des yeux. La concupiscence de l'orgueil est rattrapée par la prière. Et la concupiscence de la chair par le jeûne. Donc, l'aumône ici, qui est représenté par la troisième urne, est donc la vertu qui s'oppose à la concupiscence des yeux. En donnant aux pauvres, et évidemment, je diminue l'attachement que j'ai au bien de ce monde. Quatrième urne représente le pardon des injures. Car nous disons quand nous prions, pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour demander le pardon de nos péchés, il faut commencer par pardonner à ceux qui nous ont offensés. Tu vois, quelqu'un qui refuse de pardonner à quelqu'un qui l'a offensé ne peut pas prétendre être pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Cinquième urne de Pierre représente l'affection du corps, donc la vertu de pénitence encore une fois, un peu comme la componction et la compassion. Donc l'affection du corps, prions pour que purifiés par l'abstinence, nous puissions chanter la gloire de Dieu. L'affection du corps, et ça va correspondre au jeûne. Donc la prière correspond à la lutte contre l'orgueil, le jeûne va correspondre à la lutte contre les tentations de la chair, et l'aumône va correspondre à la lutte contre la concupiscence des yeux. Donc, ainsi, l'affliction du corps est purifiée, l'affliction du corps est, le corps est purifié par l'abstinence, pour que nous puissions chanter la gloire de Dieu. Alors, l'abstinence, c'est symbolisé par le jeûne. L'abstinence, c'est la vertu de pénitence en général, et de façon plus particulière, c'est le jeûne. Alors, continuons la dernière, le dernier point donné par Saint Bernard. Dernière urne, l'obéissance au commandement. Donc, première urne, la componction. Deuxième, la confession. Troisième, l'aumône. Quatrième, le pardon des injures. Cinquième, l'affliction du corps, donc l'esprit d'abstinence. Et la sixième et dernière urne représente l'obéissance au commandement. Vous êtes purs par la parole que je vous ai dite. Vous voyez comme les pères de l'Église vont justement chercher cette manne cachée derrière les paroles toutes simples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, verset 6 nous dit simplement, il y avait là six urnes de pierre. Eh bien, il faut que Saint Bernard aille décortiquer ça pour nous expliquer ce que représentent ces six urnes de pierre. Qui justement symbolise tout le travail de préparation pour que nous puissions recevoir la grâce sanctifiante dans notre âme. Alors, les pères de l'Église font remarquer que ces urnes sont remplies d'eau pour qu'elles puissent être gardées dans la crainte de Dieu qui est la fontaine de vie. Par le pouvoir divin, l'eau est changée en vin quand l'amour parfait chasse la crainte. Donc ça symbolise l'eau qui est changée en vin, représente l'arrivée de la grâce sanctifiante dans une âme. Les urnes sont en pierre, non pas à cause de la dureté, mais de leur constance, car chacun d'entre elles contient deux ou trois mesures. Et donc le changement de l'eau en vin représente l'arrivée de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire l'habitation en nous de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité n'était pas dans notre âme et rentre dans notre âme par l'apparition de la grâce sanctifiante dans cette âme. Au sens mystique, on est en bas de la page 25, le Christ voulait donner ce qui manquait à la loi qui baptisait avec de l'eau. Mais il acheva l'initiation sacrée par son propre sang, unissant en lui-même la loi avec la grâce. Donc, les noces de Cana représentent l'union, encore une fois, de l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que cette union entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ va permettre le mystère de la rédemption. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas été également un homme, eh bien, il n'aurait pas pu mourir pour nous sur la croix. Il a fallu qu'il soit homme pour pouvoir mourir, parce que Dieu, évidemment, étant Dieu, ne peut pas mourir. Pour que Dieu puisse mourir dans sa personne, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il a fallu que cette personne soit associée à une nature humaine. C'est dans sa nature humaine, par sa nature humaine, que notre Seigneur Jésus-Christ a pu mourir. D'accord ? Donc, l'eau symbolisait la loi ancienne, je vous l'ai déjà expliqué. La loi ancienne, c'est l'Ancien Testament qui purifiait ainsi, mais de manière corporelle. Donc le vin représente le Nouveau Testament au contraire, parce que le vin est le symbole du sang du Christ répandu sur la croix qui nettoie les âmes. Ben pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu utiliser comme matière du sacrement de la Sainte Eucharistie le vin. Dans beaucoup de pays, entre autres les pays hispaniques, le vin qui est utilisé pour le sacrifice de la messe est un vin rouge pour marquer, pour que la couleur rouge du vin qui va être transformé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ rappelle justement que c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Donc le vin, le symbole du sang du Christ répandu sur la croix qui nettoie les âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve par la rédemption, par la croix, donc par la messe. Pourquoi la messe est tellement importante? La Sainte Messe, c'est quoi? C'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc, rappelez-vous cela, l'Ancien Testament représenté par l'eau, qui va laisser place au Nouveau Testament, qui est représenté par le vin. Donc, la substance de l'eau disparaît, elle est remplacée par la substance du vin. C'est donc une transubstantiation. De même que dans cette Eucharistie, la substance du pain disparaît et est remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La substance du vin disparaît et est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, dans la transsubstantiation qui a lieu pendant la Sainte Messe, les accidents demeurent. Et les accidents du pain demeurent, même après la transsubstantiation, changement donc de la substance du pain à la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, les accidents du pain demeurent. Après la deuxième consécration, donc changement de la substance du vin à la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les accidents du vin demeurent. Il y a la couleur, le degré d'alcool, la quantité, etc. Alors que dans le miracle de Cana en Galilée, il y a une transsubstantiation, dans le sens que transsubstantiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire changement de substance. Donc la substance de l'eau disparaît, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Mais les accidents changent aussi. Et les accidents de l'eau disparaissent et se remplacent par les accidents du vin. Donc le Christ change le vin en son propre sang dans la Sainte Eucharistie. En changeant l'eau en vin au début de sa prédication, il indique qu'il va changer la loi de Moïse, qui était froide et insipide comme l'eau, en l'évangile de sa grâce. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de même que l'eau laisse la place au vin, de même, l'Ancien Testament va laisser la place au Nouveau Testament. Il y a un autre symbole derrière, le peuple juif, le peuple de l'Ancien Testament, qui dans sa majorité a refusé l'arrivée du Messie, va être remplacé par un produit de substitution. Ce produit de substitution qui va remplacer le peuple juif, c'est le nouveau peuple élu, à savoir le peuple des catholiques. Donc à la fin, notre Seigneur Jésus-Christ, donc remarque le maître d'hôtel, le maître d'hôtel remarque que notre Seigneur Jésus-Christ donc a changé l'eau en un très bon vin. Alors qu'au contraire, d'habitude, dans les mariages, lorsque les gens avaient déjà un peu trop bu, on sortait à ce moment-là le mauvais vin, ou le vin de seconde qualité. On gardait le bon vin pour le début. Et là, c'est l'inverse. Notre Seigneur Jésus-Christ change l'eau en vin, il change l'eau en très bon vin. Quand l'estomac est rempli de vin, note les pères, il est un pauvre juge de sa qualité. Cela représente la tromperie du monde. C'est une très belle image. Donc, l'estomac rempli de vin ne peut plus juger la qualité des choses. Cela représente la tromperie du monde qui présente d'abord des choses qui semblent bonnes aux yeux, mais bientôt apporte ce qui est vil et sans valeur, et ainsi trompe et se moque de ses amants. Donc, le vin de mauvaise qualité représente les arnaques, si vous voulez, du monde moderne. Le monde moderne ment à longueur de journée. On le voit très bien aujourd'hui, plus que jamais, comment le monde moderne est constamment en train de mentir pour nous empêcher de trouver les choses importantes, de comprendre où sont les choses importantes. Donc, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement accaparer l'âme avec toute une série de choses secondaires pour qu'on n'ait plus le temps de s'occuper des choses principales. Donc, symboliquement, ce vin, le bon vin, le meilleur symbole de la grâce, de la charité, de la dévotion, de la ferveur, de la force qui viennent du Christ. En strictement parlant, le vin, l'eau changée en vin, représente l'arrivée de la grâce sanctifiante dans l'âme, c'est-à-dire l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est aussi le symbole de la dévotion, de la ferveur, de la charité, de la force. Alors, c'est Saint Bernard, encore une fois, qui, avec le sens mystique, il précise que le vin dans le calice de Dieu a une triple couleur. Il est rouge, c'est la patience des saints qui a rendu Isaac heureux dans sa maladie. Il est blanc, récompense des justes, ainsi enivra Noé. Mais il est aussi noir et amer dans la damnation des méchants. Jésus goûta ce vin aussi au moment de la passion, il ne voulut pas en boire. Vous voyez, donc c'est un symbole caché derrière ces choses-là. Page 26, encore quelques minutes, on va durer déjà pratiquement une heure, on va arrêter là. En page 26, là, il y a cette phrase très importante que j'ai déjà en partie expliquée, que ce mariage représente l'union maritale du Christ avec la nature humaine qui prit place dans son incarnation. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, les pères de l'Église estiment toujours que ce mariage, ces mariages, puisqu'il y a plusieurs histoires à parabole aussi d'un père de famille ou d'un roi qui organise le mariage de son fils, donc représente Dieu qui, par le mystère de l'incarnation, va unir
va marier en quelque sorte la divinité avec l'humanité pour pouvoir rattraper les conséquences du péché d'Adam et Ève. Voilà, donc je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle et la prochaine fois, nous continuerons donc ces explications sur la fin des noces de Cana en haut de la page 26 sur le polycopier. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.